Ce matin, on continue ensemble notre série « Le fruit de l'esprit ». Et j'aimerais vous confesser quelque chose. J'aime vraiment beaucoup le produit final de quelque chose. Prends n'importe quel projet, prends n'importe quelle chose qui se passe dans ma vie, n'importe quelle relation, n'importe quelle tâche que je dois accomplir, j'aime savoir comment ça va finir. Et j'ai hâte d'y arriver. Mais je trouve jamais que ça arrive assez vite. Par exemple, j'aime ça faire du barbecue. Dernièrement, dans les dernières années, j'ai développé une passion pour le barbecue. J'aime ça passer comme des heures devant le grill à regarder quelque chose cuire. Mais, donc, à chaque fois que je vais au Costco, je m'arrête dans l'allée des viandes puis je m'arrête devant la poitrine de bœuf. Ceux qui connaissent le barbecue, vous savez que je viens de nommer une des pièces de viande qui prend le plus de temps à cuire. Puis à chaque fois, je la regarde, puis là, je sais pas pourquoi, je la tapote tout le temps. Tu sais, je regarde. Puis là, je m'imagine, je dis, ah, ça serait bon manger ça à soir. J'aimerais vraiment ça, manger ça. C'est une de mes viandes préférées. Mais ça prend 2 jours à environ faire une poitrine de bœuf, la préparer, tout dépendamment comment grosse qu'elle est, peut-être 12-15 heures sur le barbecue. Puis moi, ben j'ai un barbecue au gaz, fait que là, faut que je passe la journée à contrôler ma température. Fait que je continue, puis là, je m'achète un steak ou quelque chose que je vais pouvoir manger à soir puis être bien content. Je vais peut-être manger la poitrine de bœuf 2-3 fois par année, si je suis chanceux, une 4e fois parce qu'Alex Farley va m'en amener, parce que la sienne est vraiment bonne. Mais j'aime le produit final des choses. Je voudrais que ça arrive tout de suite. J'ai de la difficulté à embrasser le processus pour arriver là où j'aimerais être. Je sais pas si tu te reconnais là-dedans. Peut-être que tu reconnais quelqu'un dans ton entourage. Quand on lit la Bible, bien souvent, c'est comme ça qu'on va approcher notre relation avec Dieu. On lit un texte comme Galates 5, 22, le fruit de l'esprit, puis on va lire ça, puis on va dire, bon, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Là, on va finir de lire ça, puis on va prier, puis on va dire, Seigneur, ça va être moi aujourd'hui. Ça va être moi maintenant. Puis quand que je vais à l'église, puis j'entends un bon message, je dis, c'est bon, je vais avoir une bonne semaine. Ça va être moi maintenant. J'aimerais vraiment ça, pouvoir maîtriser ça à mesure que je le lis. Là, la journée commence. Tout de suite, je vais être amené à répéter 10 fois la même chose avant que tout le monde soit dans ses occupations, comme l'école, le travail. Je vais sortir de la maison pour aller au travail, puis là, je vais me faire couper sur la route en chemin. Quelqu'un oublie un rendez-vous avec moi. Je vis un désaccord avec un collègue de travail. Bon, nous ici, ça nous arrive pas, mais je vais juste donner un exemple. Et là, l'amour, la joie, la paix, la frustration, l'agitation. Puis là, j'ai encore échoué. Mais la bonne nouvelle qu'on voit dans cette série, le fruit de l'esprit, c'est que l'esprit qui est en nous, nous donne ce fruit, ces qualités qu'on est en train d'observer ensemble. C'est quelque chose que nous avons quand nous avons une relation avec Jésus. Pasteur Norman nous a dit au début de cette série qu'on peut nous attendre à grandir, à avoir plus d'amour, plus de joie, plus de paix, plus de patience et tous les autres éléments parce que l'Esprit travaille en nous. On peut s'attendre à ce que, quand on va voir une personne qui a l'Esprit de Dieu en lui dans 2-3 ans, on peut voir le progrès. Mais c'est sûr que la croissance, parfois, ça peut aller plus vite. Il y a des choses qui viennent automatiquement chez chacun d'entre nous. Mais bien souvent, la croissance prend du temps. Et elle s'observe dans un quotidien qui est rempli d'essais-erreurs, de réussites et d'échecs. La croissance se vit en partageant notre quotidien avec d'autres personnes qui ont aussi besoin de grandir. Et ça, on sait que ça peut être compliqué parfois. Et c'est pour cette raison-là qu'on a besoin de cette 4e qualité qu'on voit dans Galates 5, la patience. Pour notre croissance et celle des autres. Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un dire, « OK, je vais demander dans une réunion de prière, dans un groupe, et dis-moi, ma requête de prière, c'est je vais demander à Dieu de me donner plus de patience. » Puis là, on voit comme les 8 autres personnes le regarder et faire « Tu viens de faire la prière qu'il ne faut pas faire. » Parce que fais attention, quand on demande la patience à Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Il va te donner des occasions d'exercer la patience. On le sait, c'est une qualité importante, mais c'est pas facile. Au début de la série, je prenais une marche avec ma fille Aurélie. Je lui ai promis que je vous dirais ça, elle le sait. Je prenais une marche avec ma fille Aurélie, puis je lui parlais de, on parlait de toutes sortes de, elle aime ça jaser, puis c'est le fun, parce que mes gars, ils me parlent pas. Fait que là, je prends une marche avec ma fille, puis là, elle me jase. Puis là, des fois, faut même que je, comme, je vois des choses, tu sais, en marchant, puis je dis, non, reste focus, parce qu'elle parle, tu sais, elle aime ça. Elle veut parler, fait que là, je l'écoutais. Puis là, un moment, on s'est mis à parler de, fait que donc, de tout et de rien. Puis là, je lui parlais du message que j'étais en train de préparer. Il était l'introduction de la série du fruit de l'esprit, puis je lui disais les différentes qualités, l'amour, la joie, la paix, la patience. La réponse de ma fille, c'est « J'espère qu'ils ont choisi quelqu'un d'autre pour parler de la patience. » J'ai dit « Ah non, mais là, je regardais, je disais « C'est vrai, je suis allé voir. » J'ai dit « Ah non, c'est bon, c'est pas moi. » Puis là, ben, on a comme Normand a fait un petit changement de 1. Puis là, ben c'est moi qui est ici ce matin. Mais j'ai pu dire à ma fille, puis c'est vraiment pas, je suis pas ici pour me protéger ce matin ou me défendre, parce que ça serait, je dirais, la même chose pour n'importe quel des sujets. Mais honnêtement, j'ai dit à ma fille, je suis pas celui qui vient prêcher le dimanche parce que je ace toutes les, je suis 100% dans toutes les qualités puis dans tous les éléments de que la Bible nous enseigne. Si le pasteur était en avant ici parce qu'il avait tout compris, on l'appellerait Jésus. Et j'ai dit à ma fille, j'ai dit, moi, je suis ici pas parce que je pense que vous devriez prendre toujours modèle sur moi, sur tout ce que je fais. Il y a des choses qu'il faudrait pas faire ça. J'espère grandir, puis j'espère que je peux être un modèle pour vous dans plusieurs aspects de ma vie. Mais si je suis ici, c'est parce que j'ai envie de parler de celui qui maîtrise parfaitement la patience. Celui dont on a le besoin. Ah, OK, c'est correct. Et ce matin, c'est ce que j'aimerais qu'on fasse ensemble. Qu'on puisse regarder à quel point Dieu est patient envers nous, pour qu'on puisse voir que sa patience envers nous, c'est ce qui nous donne la force, la motivation, puis c'est ce qui nous équipe à être patients les uns envers les autres. Et pour regarder la patience de Dieu ce matin, on va regarder un texte dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 57. Et je vous laisse le temps d'aller regarder dans vos Bibles, dans Ésaïe au chapitre 57. On va voir dans ce passage-là la patience de Dieu. Avant de lire dans Ésaïe, le psaume 103, et vous n'êtes pas obligé d'aller là, mais le psaume 103 nous dit que Dieu fait preuve de compassion et de bonté. Il est lent à la colère et riche en amour. Et ce qu'on voit de la patience de Dieu dans les Écritures, c'est cette notion que Dieu est lent à la colère. Et c'est ce qu'on va regarder ensemble. On va voir dans Ésaïe 57 comment la Bible nous dépeint un Dieu qui est lent à la colère, qui est rempli de patience envers nous. Juste avant de lire le passage, on va prier ensemble. Seigneur Dieu, merci pour ce temps que tu nous donnes ce matin. Merci pour ton amour dans nos vies. Merci pour ta patience, c'est ce qu'on veut voir ce matin ensemble. Et si on est tous ici ce matin et qu'on peut entendre ta parole, on est déjà des bénéficiaires de ta patience, de ton amour qui se communique au travers de ta patience. Je te prie ce matin que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses nous émerveiller par ton œuvre et vraiment que ça puisse nous équiper, nous motiver à être comme toi de plus en plus. C'est dans ton nom qu'on te prie, Jésus. Amen. On va lire ensemble dans Ésaïe 57. On va lire à partir du verset 14 jusqu'au verset 21. On dira alors, préparez, dégagez un chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté. Mais je suis aussi avec l'homme brisé et abattu, afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Non, je ne veux pas lancer éternellement des accusations. Je ne veux pas m'irriter indéfiniment, car il est trop faible devant moi, l'esprit, le souffle des êtres que j'ai moi-même fait. C'est à cause de ces profits criminels que je me suis irrité et que je l'ai frappé. Je me suis caché dans mon indignation et le rebelle a suivi le chemin que lui indiquait son cœur. J'ai vu sa conduite, mais je le guérirai. Je le guiderai et je lui assurerai une pleine consolation à lui et à ceux qui sont en deuil à cause de lui. Je ferai naître la louange sur leurs lèvres. Je donnerai la paix. Oui, la paix à celui qui est loin et à celui qui est près, dit l'Éternel. Et je les guérirai. Quant aux méchants, ils seront pareils à la mer agitée qui ne peut se calmer et dont l'eau soulève la vase et la saleté. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Donc, ce matin, j'aimerais qu'on prenne le temps de regarder ensemble en quoi consiste la patience de Dieu envers nous. Dieu se nomme ici saint. Je suis un Dieu saint, je suis le saint qui habite dans les hauteurs. Dieu affiche ses couleurs. Il nous dit qui il est. Et à première vue, si on s'arrête au début de ce passage-là, il y a bien d'autres passages dans les Écritures, et peut-être même que c'est ce avec quoi vous luttez quand vous lisez la Bible, on peut regarder qui est Dieu et pas voir ça comme une bonne nouvelle pour nous. La sainteté de Dieu fait référence à son caractère parfait, au fait que Dieu est 100% pur. C'est en fait ce qui le distingue le plus de sa création. Dieu est à part, Dieu n'est comme nul autre, il est complètement pur, parfait. Dieu a déterminé ce qui était bien, ce qui était mal, et il ne tolère pas le mal dans sa présence, car il est un Dieu saint. En fait, on voit que quand la Bible parle de la sainteté de Dieu à plusieurs égards, les gens qui font face à la présence de Dieu ont l'impression qu'ils n'ont pas leur place là, qu'ils vont même mourir. C'est ce que Ésaïe va vivre dans Ésaïe 6. On va pas lire ce passage ce matin, mais vous pourriez aller le voir. Les parents d'ados, vous pourriez leur poser des questions. On a parlé de ça vendredi. J'ai eu la chance d'aller visiter les ados à la jeunesse. Mais dans Ésaïe 6, quand Ésaïe se trouve dans la présence de Dieu, il se trouve devant la sainteté de Dieu et il est convaincu qu'il va mourir. Ésaïe voit Dieu, voit les anges qui sont avec lui, le temple se met à trembler, il y a de la boucane, de la fumée qui commence à surgir dans son rêve, dans son songe. Et là, il dit, « Je suis un homme aux lèvres impures, parmi un peuple aux lèvres impures. » Il est convaincu qu'il va mourir. Devant la grandeur et la perfection de Dieu, il voit son cœur et est certain qu'il n'a pas sa place dans la présence de Dieu. En fait, la sainteté de Dieu implique que Dieu ne peut pas tolérer l'impureté dans sa présence. Alors, le passage qu'on voit ce matin dans Ésaïe 57 nous parle de ce Dieu saint qui habite dans les hauteurs. Il habite dans les hauteurs et c'est clair dans ce passage-là que lui, il est là et nous, on n'est pas là. Et si Dieu reste là, si Dieu reste dans les hauteurs, c'est un problème pour nous. On a un problème. Parce que si Dieu reste dans les hauteurs, on n'aura jamais accès à sa présence. On ne peut pas aller là où il est parce que Dieu est un Dieu saint, sans faute, complètement pur, sans regret, sans honte. On serait comme Ésaïe, on serait comme, « Hey, qu'est-ce que je fais dans la présence de Dieu? C'est sûr que je vais mourir. » Mais cette image de Dieu dans les hauteurs, comme le dit Ésaïe, et nous qui sommes ici-bas, c'est une illustration remarquable de la réalité de notre cœur, de la séparation de l'être humain avec Dieu. Une séparation que nous avons choisie comme être humain quand on a décidé de vivre sans Dieu, quand l'être humain a dit non, je n'ai pas besoin de Dieu, je n'ai pas besoin de Dieu pour me dire ce qui est bien et ce qui est mal, je peux vivre ma vie sans Dieu, j'ai pas besoin de toi. Dans le livre d'Ésaïe, on voit que le peuple vit dans l'idolâtrie, c'est-à-dire qu'ils adorent d'autres dieux. Ils ont abandonné Dieu. On le voit dans ce texte-là, la souffrance, la menace de l'oppression extérieure, les rois de Juda, d'Israël, ont abandonné les voies de Dieu. On voit un peuple qui est rebelle à Dieu et qui est séparé de Dieu. Le peuple est en train de vivre les conséquences de l'abandon de Dieu et les conséquences. La conséquence ultime de cet abandon-là, c'est la mort, la séparation d'avec Dieu pour toujours. Et si on restait séparé de Dieu, si Dieu n'intervenait pas, eh bien, ce que la Bible nous dit, c'est que cette souffrance, cette solitude va se poursuivre pour l'éternité. On peut s'arrêter ici et faire l'évaluation de ce Dieu-là, ce Dieu saint. Peut-être que ce matin, tu entends ça et tu dis, il me semble que Dieu, c'est un Dieu dur, un Dieu destructeur qui manque totalement d'amour, de considération pour sa création, un Dieu en colère. Pas un Dieu qui est tellement patient. Mais le psaume 103 qui nous dit que Dieu est lent à la colère nous dit aussi que Dieu ne nous traite pas comme le mériteraient nos fautes. Vous voyez, la mort éternelle, le jugement de Dieu, c'est un résultat non pas du manque d'amour de Dieu envers nous, mais du fait qu'on a choisi de vivre sans Dieu, de ne pas l'aimer, de se rébeller. On ne peut pas blâmer Dieu d'avoir empêché les êtres humains de le trahir. Parfois, on dit, OK, mais Dieu aurait pu empêcher le péché de venir dans le monde. Il aurait pu empêcher Adam et Ève de désobéir à Dieu. On ne peut pas blâmer Dieu de ne pas les avoir empêchés. Parce que si Dieu nous aime d'un amour infini, il voulait aussi qu'on soit libre de l'aimer en retour de ce même amour-là. Il voulait qu'on soit libre de l'aimer de ce même amour. Quelle sorte d'amour est-ce que ça serait si on était forcé d'aimer un Dieu qui nous empêchait de choisir si on pouvait l'aimer? La colère de Dieu, cette irritation, c'est pas un manque d'amour. En fait, elle fait partie de son amour pour nous. L'an passé, on a fait une série dans le livre de Jacques vers la maturité spirituelle. Et on avait parlé de la colère et je vous avais présenté un auteur, David Paulison, qui a écrit un livre sur la colère qui s'appelle « Good and Angry ». Puis dans son livre, il nous dit, c'est un pionnier de relations d'aide, et il dit que la colère, c'est Dieu qui nous a donné la colère, cette émotion naturelle qui vient directement du caractère de Dieu. C'est-à-dire que peut-être que pour toi, quand tu entends le mot colère ce matin, tu dis la colère, c'est toujours une mauvaise chose. La colère, c'est toujours une mauvaise réaction. La colère, c'est faire du mal à quelqu'un. Mais en fait, la colère, c'est Dieu qui nous a créés pour identifier ce qui est mal et ce qui fait du mal. Pour qu'on puisse réagir à ce mal dans le but de réparer le mal qu'on a vu. En d'autres mots, je vois quelque chose que j'aime pas, je me sens pas bien, puis je dois faire quelque chose à propos de ça. Je dois agir. Et c'est ce que Dieu fait quand il est en colère. Quand Dieu est en colère, c'est pas pour nous faire du mal, mais c'est parce qu'il est triste de voir sa création se détruire et faire des mauvais choix. Oui, Dieu est en colère, quand Dieu est en colère, c'est comme un père. Comme un père qui voit ses enfants s'éloigner de lui, qui voit ses enfants s'éloigner de son amour, de sa protection. De toutes les bonnes choses qu'il a pour eux, Dieu se met en colère. Dieu est en colère quand il voit les êtres humains se détruire entre eux. Et si c'est la conséquence de notre séparation avec Dieu, ce passage dans Ésaïe va nous montrer à quel point Dieu est investi. Il réagit à cette colère-là. Il est investi dans son projet de nous ramener vers lui. On relit ensemble le verset 15. En effet, voici ce que dit le Très-Haut, celui dont l'habitation est éternelle et le nom saint. J'habite dans les hauteurs et la sainteté, mais je suis aussi avec l'homme brisé, abattu afin de redonner vie à l'esprit abattu, afin de redonner vie au cœur brisé. Non, je ne veux pas lancer éternellement des accusations. Je ne veux pas mériter indéfiniment. Car il est trop faible devant moi, l'esprit, le souffle des êtres vivants que j'ai moi-même fait. » Voyez-vous, Dieu, dans sa sainteté, il n'est pas resté là à nous regarder, puis à nous envoyer des éclairs, puis à nous détruire, puis à rire quand il nous voit nous chicaner, nous détruire les uns les autres. Dieu est triste. Ça le met en colère. Et ce que Dieu a fait, c'est qu'il est venu vers nous. Dieu est venu vers nous, rempli de compassion pour notre souffrance, rempli de compassion pour nos difficultés, rempli de compassion pour les gens qui avaient fait le mal. Je ne sais pas si vous avez retenu ça tantôt, mais il dit au verset 18, « J'ai vu sa conduite, mais je le guérirai. Je le guiderai et je lui assurerai une pleine consolation à lui qui a fait le mal et à ceux qui sont en deuil à cause de lui. » Dieu est ici pour venir consoler des pécheurs. Dieu voit ce qui se passe dans le monde et dit, « Moi, je suis intervenu, il veut venir consoler des pécheurs. » Il veut venir nous restaurer la relation qu'on avait perdue avec lui. Donc, si Dieu est lent à la colère, si Dieu est patient, c'est que Dieu fait tout maintenant pour qu'on puisse avoir une relation avec lui. Il agit pas du premier coup selon ce que méritent nos fautes, mais il nous offre son Fils Jésus. Il nous offre sa grâce. Il nous offre son amour. Dieu réagit au mal en étant patient. Dans sa patience, il va agir de façon extraordinaire. Vous savez, si on parle de patience ce matin, peut-être que pour toi, tu as de la difficulté à voir la patience. Peut-être que tu dis, ouais, mais la patience, c'est comme c'est rien faire. C'est de subir quelque chose, puis c'est de pas agir. Mais en fait, ça, c'est pas la patience, c'est la passivité. Parce que la patience, c'est d'être vraiment engagé dans la situation. C'est de savoir que je pourrais faire quelque chose, mais si j'agis tout de suite, je vais peut-être agir de la mauvaise façon. C'est de savoir que je pourrais faire quelque chose, mais si j'agis tout de suite, ben peut-être que la personne n'aura pas la chance de se repentir ou d'avoir une deuxième chance de grandir. Peut-être que la personne va juste creuser encore plus plutôt que d'être élevée. La personne patiente sait attendre parce qu'elle espère puis elle sait que la situation peut changer. Elle sait qu'il y a peut-être quelque chose de mieux à faire dans le temps. La patience, c'est une déclaration que tu ne veux pas réagir de la mauvaise façon à ce que toi, tu perçois comme étant mal. Parce que si Dieu nous a donné cette capacité-là de voir le mal et de ne pas se sentir bien quand on voit le mal, malheureusement, à cause de notre péché, parfois, on détermine nous-mêmes le mal. Et on a besoin de s'arrêter puis de se poser la question, est-ce qu'on m'a vraiment fait du mal? Est-ce que c'est vraiment mal ce qui m'est arrivé ou si c'est ma perception des choses? Est-ce que je suis en train de poursuivre l'amour de Dieu, la patience de Dieu, la paix de Dieu, ou je suis en train de poursuivre ma paix, mon amour? On doit se poser ces questions-là. Et la patience nous permet de pas réagir. Mais contrairement à nous, Dieu ne peut pas mal agir face à une situation. Mais il est quand même patient. Il veut attendre. Mais il n'a pas été passif parce qu'il a agi. Dans la grande détresse de l'humanité, Dieu a envoyé son Fils unique pour qui il était rempli d'amour. Jésus, c'est celui qui n'avait jamais commis le mal, qui ne s'était jamais séparé de Dieu. Il l'a envoyé sur terre pour qu'il donne sa vie pour nous, pour qu'il prenne nos péchés à notre place. Et qu'à la croix, il puisse subir à notre place la colère de Dieu, le jugement que méritaient nos fautes. Il est venu nous réconcilier avec lui au travers de cet acte de pardon à la croix. Et on pourrait dire que En plus de que Jésus a pris notre place, mais Dieu a fait encore plus parce qu'il a ressuscité son fils. Oui, Jésus a souffert, mais il a été ramené à la vie. Dieu a vaincu le péché et la mort. Dieu s'est défait de l'impureté, de la souffrance. Pour qu'un jour, on puisse totalement vivre les effets de ce que Dieu a fait à ce moment-là. Pour qu'un jour, on puisse vivre sans souffrance, sans honte, sans regret, sans difficulté. On n'aura plus de problème de patience ou de déception parce qu'on n'a pas réussi à aller jusqu'au bout du processus. Parce que Dieu a envoyé son Fils mourir pour nous et il a vaincu la mort. Alors quand on voit qu'un Dieu est patient, que Dieu est patient et lent à la colère, on voit un Dieu qui a tout fait pour qu'on puisse avoir une relation avec lui maintenant. Qu'on puisse croire maintenant qu'on goûte à l'amour de Dieu et on peut aimer notre prochain. On goûte à la joie de Dieu et non pas à sa condamnation parce qu'on a été pardonné. On goûte à la paix, à la patience de Dieu. Et on sait que Dieu va amener à terme son projet de nous restaurer. C'est ce que Dieu est en train de faire. Et le verset 19 nous dit « Je ferai naître la louange sur leurs lèvres. Je donnerai la paix, oui, la paix à celui qui est loin et celui qui est près, dit l'Éternel. » La patience de Dieu envers nous, son amour qui nous transforme, nous permet maintenant de le louer, de l'adorer. De louer, oui, comme on a chanté ce matin des chants à Dieu, puis de reconnaître qui Dieu est et ce qu'il a fait, mais aussi de le louer avec nos vies. Et de croire que si l'Esprit de Dieu est en nous et qu'il est un Dieu patient, eh bien, il nous équipe pour être patient, pour pouvoir attendre, pour pouvoir être gracieux envers les autres autour de nous, donner une chance. Et même que quand on manque de patience, eh bien, on peut se tourner vers lui parce que lui manque jamais de patience envers nous. Et on peut demander pardon 10, 15, 20 fois par jour à nos enfants, nos époux, nos épouses, nos collègues de travail parce qu'on a manqué de patience et de grâce envers eux parce que Dieu nous a pardonnés. Dieu nous a équipés pour qu'on puisse être patients les uns envers les autres. On est équipés pour réagir à cet inconfort quand on voit le mal. Puis d'attendre et demander à Dieu, puis se demander c'est quoi la bonne chose à faire dans cette situation-là. D'attendre et de prier pour la personne. Parfois, avec mes enfants, je réagis, puis je disais à un de mes enfants dernièrement, j'ai dit, je pense que des fois, je réagis fort à ce que tu viens de faire, parce qu'à chaque fois que tu le fais, j'ai l'impression que je perds le contrôle puis que tu vas faire des mauvais choix dans la vie. La patience que j'essaie d'acquérir de plus en plus, nous permet de dire, cet enfant-là, il est dans les mains de Dieu. Et tout comme moi, il est en train d'apprendre et de grandir. Et c'est Dieu qui peut faire une œuvre dans sa vie bien plus grande que son père qui essaie de le contrôler. Et dans ces moments-là, je dois demander pardon. On peut demander pardon à nos enfants. Parce que si on essaie de dire à nos enfants que d'être chrétien, c'est d'être parfait, ils vont être vraiment déçus de nous. Et ils vont trouver ça dur d'essayer d'être chrétiens eux-mêmes. Mais si on leur dit que d'être chrétien, c'est d'avoir de la grâce les uns pour les autres, comme Dieu a eu de la grâce envers nous, que c'est d'être patient comme Dieu a été patient envers nous, et que quand on n'y arrive pas, ben on peut pointer nos enfants et nous-mêmes vers Dieu. Et c'est à ce moment-là qu'on peut leur demander pardon. Je vais inviter les musiciens à s'avancer. L'équipe de placeurs, vous pouvez aussi aller à la table. On va prendre le repas du Seigneur ensemble ce matin. On peut se tourner vers lui parce qu'il ne va jamais manquer de patience envers nous. Et ce matin, on va prendre le repas du Seigneur ensemble. On va prendre cette scène que Jésus a pris avec ses disciples avant de mourir. Et il a dit, à chaque fois que vous allez prendre ce pain et cette coupe, faites-le en mémoire de moi. Rappelez-vous ce que j'ai fait pour vous. Et ce matin, quand on va tenir ça dans nos mains, et vous pouvez commencer la distribution. Quand on va tenir ça dans nos mains, j'aimerais qu'on se rappelle à quel point Jésus, comment Dieu a été patient envers nous. Qu'on puisse être reconnaissant de ça, de comment il était peut-être patient envers toi ce matin. Hier, cette semaine, on veut se rappeler ce qu'il a fait pour nous. Et on vous demande de laisser passer si Jésus n'est pas encore votre sauveur, si Jésus n'a pas encore, vous n'avez pas encore été réconcilié avec lui. Mais c'est une invitation que je vous lance en même temps. Ce matin, si tu as été touché par la patience de Dieu envers toi, eh bien, je t'invite à considérer à quel point il t'aime, à quel point il a agi pour te restaurer, te réconcilier avec lui, pour briser la honte, pour briser le regret, pour briser nos incapacités. Il a donné son Fils unique qui est mort à la croix pour nous. Et si c'est un message qui te touche pour la première fois ce matin, je t'invite à venir nous voir. Peut-être venir voir une des personnes que tu vois sur le stage. Peut-être que tu connais un pasteur ou une personne chrétienne à l'église que tu peux aller voir. Tu peux aller au kiosque aussi. On veut prendre un temps avec toi. Pour que tu puisses te réjouir avec nous de ce que Jésus a fait pour nous. Donc on va faire un chant et après on va prier et on va prendre la Sainte-Cène ensemble.